On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et j'aimerais réintroduire avec le même verset que j'ai introduit la semaine dernière. On va en lire deux versets, mais là on va lire le psaume 84, verset 6 pour bien se rappeler de quoi il était question. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et puis, en suivant, nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22, et le verset 19, c'est un cantique de David. Lorsque le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül, il a écrit ce cantique. Nous lisons juste le verset 19. Donc il parle de tous ses ennemis. « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » Mais l'Éternel fut mon appui. Dans ces deux passages, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient, c'est le mot « appui ». J'aimerais ce matin continuer un petit peu dans le sens des messages des deux derniers dimanches. Vous rappelez que nous avons parlé des incertitudes, des temps d'incertitude dans notre vie, ces incertitudes humaines que nous pouvons avoir, mais bien sûr nous avons des certitudes spirituelles. Et dimanche dernier, nous avons vu l'importance que dans ces temps-là, il nous faut prendre appui sur le Seigneur et suivre ses traces. Là, c'est le rocher des siècles et nous sommes sûrs que si nous suivons les traces du Seigneur, eh bien, nous irons jusqu'au bout appuyés sur lui. Et j'aimerais ce matin, avant de passer à un autre sujet, enfoncer le clou. Et c'est vrai que nous avons parfois ces périodes d'incertitude où nous manquons de visibilité, où nous n'avons peut-être même plus aucune quant à notre vie. Cette semaine, et j'ai trouvé bien à propos, alors que je préparais ce message, une situation qu'a vécue ma fille au Canada. Elle était en voiture avec son mari, et puis ce n'était pas prévu, mais il y a une tempête de neige qui est arrivée subitement. Et pour ceux qui ont déjà été pris dans des tempêtes de neige, vous savez que à ce moment-là, on ne voit plus rien. À 10 mètres, on ne voit plus rien. C'était tout blanc à droite, tout blanc à gauche, tout blanc dessus, derrière. Enfin, c'était tout blanc partout. Il n'y a aucun repère. On ne sait même pas si on est encore sur la route. On n'est même pas... S'arrêter, c'est dangereux parce qu'il se peut que quelqu'un, ne vous voyant pas, vous tamponne par derrière. Continuer, ça peut être dangereux. Par exemple, il y avait des camions qui sont arrivés. Ils les ont vus 10 mètres avant d'arriver. Donc, ils ne savent même plus s'ils sont sur la route. Donc, c'est très dangereux. La seule solution, c'est de rouler au ralenti à ce moment-là et jusqu'à temps que ça se dégage. Mais bien sûr, parfois, ça se finit mal. Là, heureusement, ça s'est fini bien. Et parfois, ça a été... Je pensais à ça et je pense que parfois, nous sommes dans cette situation-là, dans certaines phases de notre vie où on n'y voit plus rien. S'arrêter, ce n'est pas possible parce qu'on est pris dans un engrenage. Mais continuer, on sait pertinemment que si on continue, on peut aller... vraiment à l'accident dans notre vie, à des temps vraiment compliqués. Et dans ces moments-là, il est important pour nous vraiment d'avoir recours dans le Seigneur. Heureux ceux qui prennent pour appui le Seigneur, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, ces chemins qu'on ne voit plus comme dans ce cas-là, dans la neige. Il y a certaines périodes, et toute notre vie, nous connaissons cette période-là, depuis l'enfance jusqu'au jour où nous allons partir avec le Seigneur. Ça commence avec l'enfance. Vous savez, quand on est enfant, on est habitué, il y a des changements comme cela. Par exemple, quand on est à l'école primaire, en CM2, la dernière classe de l'école primaire, on est les rois de l'école, les caïds de la récré. Alors, on connaît tout ce qui se passe, et puis on est les plus forts de l'école. Et puis il y a là les autres, les CM1, les CE1, les CE2, les petits là, de l'école, mais nous, on est les caïds de l'école. Et puis... Après, on se retrouve en sixième. Alors là, c'est le choc. Hein. On n'est plus du tout les caïds de l'école. Là, on est les petits. Et puis, il en est ainsi. Après, c'est le passage à l'université. Et la première année d'université est parfois difficile. Il y a des taux de tentatives de suicide chez les jeunes qui sont dans leur première année de faculté effrayants parce qu'ils étaient chez leurs parents, papa et maman s'occupaient de tout, maman faisait le linge, faisait la cuisine, et là ils se retrouvent déracinés, il faut qu'ils s'occupent de tout, ils se retrouvent tout seuls avec un nouveau contexte de vie, des nouvelles personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ça peut être très déstabilisant. Et après, c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Il y a des changements professionnels dans notre vie aussi qui peuvent amener beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi, quand les enfants partent de la maison, les parents peuvent aussi le vivre très mal. Il y a la vieillesse qui arrive aussi. C'est une phase qui peut être difficile à vivre pour certaines personnes. Il y a la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. Enfin, vous connaissez tous ces temps-là, si vous les avez vécus. Si vous ne les avez pas vécus, ça va venir. Il y a le changement d'église. Ça peut être aussi perturbant, un changement d'église. Alors certains, c'est vrai, ont toujours habité au même endroit, toujours été dans la même église, mais un changement d'église peut être perturbant parce qu'on était habitué à une façon de faire dans l'église où on était. Voilà, on s'était converti dans cette église, on a passé des années dans cette église, on avait tous nos amis dans cette église, et puis pour des raisons familiales, professionnelles, on part dans une autre région qu'on ne connaît pas, des nouveaux frères et sœurs, une façon de vivre l'église qui est différente, bien sûr c'est la même doctrine, etc., mais une façon de vivre l'église qui est différente, et parfois c'est un choc, certains le vivent très mal. C'est important dans toutes ces situations, et on pourrait en trouver bien d'autres des situations, de s'appuyer sur le Seigneur. On va revenir à David qui a écrit ce psaume, que nous trouvons aussi dans le livre des psaumes, identique, dans le psaume 18 de Samuel chapitre 22 et psaume 18 sont identiques. Et j'aimerais prendre l'exemple de David. Pour ça, bien sûr, il nous faudrait lire plusieurs chapitres du premier livre de Samuel, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, pour cela. Même, j'allais dire, à partir du chapitre 18 jusqu'à la fin du premier livre de Samuel, on ne va pas le faire ce matin, ça serait trop long, mais dans le chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, David à chaque fois est obligé de fuir plus loin et il prend appui sur quelque chose ou sur des personnes et à chaque fois ses appuis lui sont enlevés. C'est comme si vous marchiez avec des béquilles parce que vous vous êtes fait mal au pied, je ne sais trop comment, mais vous êtes fait mal au pied, vous marchez avec des béquilles, mais c'est comme si quelqu'un passait par derrière et vous enlevez la béquille. Alors là, vous perdez pied. Et c'est ce qui se passe avec David. Et parfois, il est vrai que Dieu nous enlève ces appuis humains sur lesquels nous nous appuyons parce que nous n'avons pas à nos yeux d'autres recours. Il fallait que David passe par là. Avant de parvenir à la royauté, il a déjà été oint par le prophète Samuel. Mais entre le moment où David a reçu l'onction par le prophète Samuel jusqu'au moment où il va être effectivement roi, il va se passer plusieurs années et ces années vont être tourmentées. Mais David a besoin de passer par là avant d'accéder au trône. De lui-même, il n'aurait pas imaginez un seul instant qu'il soit obligé par ce chemin-là. Mais c'était le chemin que Dieu avait tracé pour lui. David vient de remporter une éclatante victoire sur Goliath de Gath, un philistin qui terrorisait tout le peuple d'Israël. Et suite à cet exploit, Saül, va le mettre à la tête de tous ses gens de guerre. C'est le responsable de l'armée d'Israël. Voilà la position qu'occupe, il est encore très jeune. Et lorsqu'il est très jeune, Saül le propulse chef de l'armée d'Israël, de tous les gens de guerre. On voit ça dans le chapitre 18. Et David, son nom est devenu très célèbre. Il nous a dit que son nom est devenu très célèbre. Et partout où l'envoyait Saül, il réussissait partout. Il avait donc acquis une certaine notoriété, une certaine position. Il avait une position. Position et notoriété sont différentes, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'était lié ensemble, puisqu'il avait cette position, mais aussi la notoriété, la réputation qui allait avec. Il pouvait donc s'appuyer sur cela. Sauf que, lorsque les femmes sont revenues, et chantant « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 », alors là, jalousie a commencé à saisir Saül, et il nous est dit qu'en plus, il avait peur de David parce qu'il réussissait partout où il allait. Alors, il commence à s'en prendre à David, qui est devenu en plus son gendre, parce qu'il l'a marié avec Michal, sa fille. Et il commence à vouloir le tuer. Et là, David va s'appuyer sur sa position, sur sa notoriété. Et d'ailleurs, Jonathan va aller trouver son père, lui disant, « Écoute, n'a-t-il pas combattu pour nous ?» etc. Donc, à ce moment-là, la position et la notoriété de David vont lui rendre service, et Saül va le réintégrer, va à nouveau le faire venir, mais ça ne marchera plus. La jalousie va encore prendre Saül, et il est comme fou furieux, et il va s'en prendre à David, et là, il n'y a plus cet appui-là. Et il va, après cela, trouver un autre appui. Mais arrêtons-nous sur ce premier appui. J'ai connu une sœur en Christ il y a quelques années. Elle était cadre dans une entreprise. Et ça faisait déjà pas mal d'années, je ne sais pas combien d'années, mais peut-être 15 ou 20 ans qu'elle était déjà dans cette entreprise. Et elle était compétente dans ce qu'elle faisait. Et puis à un moment donné, il y a eu un changement dans la direction, dans ses supérieurs hiérarchiques, il y a eu un changement, une nouvelle personne est arrivée. Et cette nouvelle personne qui est arrivée l'a pris en grippe. Ça peut arriver. Ça peut être arrivé déjà à quelques-uns. Et elle a commencé à la harceler, à mener une cabale contre elle. Et alors qu'elle était connue et vraiment qu'elle était compétente dans ce qu'elle faisait, connue et reconnue, elle a fini, comme on dit, dans un poste de placard. Elle a fini au placard. Alors là, pose la question. Alors elle comptait que ses collègues, qui la connaissaient depuis tant d'années, allaient dire mais non, c'est injuste, c'est une femme qui est sérieuse et qui fait bien son travail. Mais ses collègues avaient peur des représailles, des conflits d'influence et d'intérêts. Vous savez ce que c'est. Et ils ne sont pas venus l'aider. Alors là, on se pose des questions, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Elle s'est appuyée sur toutes ces années. J'ai quand même fait mes preuves. Pourquoi il m'arrive cela? Le Seigneur connaît toutes choses. Bien sûr, au bout de quelques temps, ça a duré quelques mois, même un peu plus, elle est sortie du placard. Mais elle avait peut-être besoin de vivre cela par rapport à sa foi et par rapport à sa position en Christ. Frères et sœurs, nous voulons nous appuyer sur l'Éternel. Ce que nous avons réussi à faire dans le passé n'est pas un appui solide. Deuxième appui, il y en a 5. Une fois que cet appui de la notoriété, de la position lui a été enlevé, c'est au chapitre 19 qu'on voit ça, de suite qu'est-ce que fait David ? Il va s'enfuir, il va se réfugier chez sa femme, Michal. C'est quand même la fille du roi. Il ne va pas toucher à sa fille, quand même, le roi. C'est sa fille. David est son gendre. Mais dans sa folie furieuse, Saül n'a plus d'égard pour personne. À tel point que David est obligé de fuir de chez sa femme par la fenêtre. Il est obligé de s'enfuir par la fenêtre parce que déjà la maison est cernée, déjà Saül arrive. Il est obligé de s'enfuir par la fenêtre. Et Michal qui va mentir à son père, parce qu'elle aussi elle a peur. Parfois, lorsque on se trouve dans ces moments d'instabilité, dans ces moments d'incertitude, où l'on manque de visibilité dans notre vie, On tente à s'appuyer sur son conjoint. Mais j'aimerais vous dire que notre conjoint, il a ses limites et ses faiblesses. Aussi. Alors bien sûr, il peut aider. Mais s'appuyer sur son conjoint, ça peut être bien. Mais ça peut lui être aussi difficile et même fatal. Parce que lui aussi, il a ses difficultés et il peut le vivre mal. C'est ce qui a produit un mensonge dans la vie de Michal. Et on voit après la situation entre Michal et David a dégénéré. Troisième appui, qu'est-ce qui lui reste encore? Qu'est-ce qui reste à David comme appui? Il lui reste le prophète Samuel. Quand il va s'enfuir de chez sa femme par la fenêtre, il va aller se réfugier auprès du prophète Samuel. Quand même, Saül ne va pas toucher au prophète Samuel. Samuel, c'est son coach à David. C'est lui qui l'a oint comme roi. Samuel est le prophète respecté en Israël. Un prophète reconnu. Le même prophète qui a oint Saül. Et c'est le même prophète qui a aussi prononcé de la part de l'Éternel à Saül que l'Éternel le rejetait. Il va se réfugier auprès de Samuel, auprès de son coach. Et là, il va connaître un petit répit, David. Saül va envoyer des serviteurs pour se saisir de David lorsqu'il apprend qu'il s'est réfugié auprès de Samuel. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque les serviteurs arrivent auprès du prophète Samuel? L'Esprit de Dieu les saisit. Et ils se mettent à prophétiser. Saül, le sachant, et vraiment étant déterminé à se saisir de David, il va envoyer un deuxième groupe de serviteurs pour se saisir de David. Mais lorsqu'ils approchent de Samuel, l'Esprit de Dieu les saisit aussi, et ils se mettent à prophétiser. Alors là, Saül dit, je vais y aller moi-même. Il est tellement déterminé, il veut se saisir de David. Il arrive auprès de Samuel, et là aussi l'Esprit de Dieu est sur Saül, et Saül se met à prophétiser. David connaît un répit, mais il est quand même obligé, au bout d'un moment, de s'enfuir. Même ça lui est ôté. Parfois, on pourrait se réfugier, j'allais dire, peut-être dans une atmosphère, j'allais dire, spirituelle. On se réfugie, et notre seul refuge qu'on peut trouver, c'est peut-être l'Église. Là, ça a été le prophète Samuel où il y avait la présence du Saint-Esprit et on peut se réfugier dans l'Église. Mais cet appui-là peut nous être ôté parce que le seul appui qui est ferme et qui est sûr et certain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on attend trop de l'Église par rapport à notre propre vie, on peut être déçu et le vivre mal. Parce que nos attentes sont trop élevés par rapport à ce que nous attendions peut-être de l'Église. Cet appui lui a été enlevé. Quatrième appui, il s'enfuit donc de chez Samuel, du prophète, et là, le réflexe de David, c'est d'aller trouver son meilleur ami, Jonathan. Surtout que ça avait marché une première fois. Jonathan avait réussi à plaider la cause de David devant Saül, son père, et Saül avait accepté. Ça avait marché une première fois. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il ne lui reste pas grand-chose à David à ce moment-là. Il va se réfugier auprès de Jonathan. C'est son meilleur ami. Il va s'appuyer sur Jonathan. C'est aussi le fils du roi, Jonathan. Ce n'est pas n'importe qui, Jonathan. Jonathan est... Et vraiment, en plus, c'est un guerrier reconnu, fils du roi, qui est appelé à succéder aussi à son père. Il va respecter son fils, quand même. Alors là, ils mettent au point avec David et Jonathan un repère. Il y a un enfant qui doit tirer une arc. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ça serait intéressant, mais je résume. Mais là encore, non seulement ça ne suffit plus, mais Saül va essayer de tuer son propre fils Jonathan parce qu'il a pris la défense de David. Il va prendre la lance et... Oh, il a arrêté au dernier moment. plus rien n'y fait. Plus rien n'y fait. Et là, dans la vie, des fois, on dit heureusement que j'ai des amis. Ouf, heureusement. Mais même ça peut nous être enlevé. Parfois, on ne comprend plus. Hein. Et on ne comprend plus rien ce qui se passe dans notre vie. On a l'impression que tout le monde nous abandonne, que plus personne ne nous comprend. Et là, on peut s'écrier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais que peuvent nos amis ? Eux aussi ont leurs limites. Eux aussi ont leurs limites. Et là, j'en arrive au cinquième appui. Il est particulier, ce cinquième appui de David. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui reste à David ? Sa notoriété, position, ça ne marche plus. Son épouse, la fille du roi, ne marche plus. Le prophète Samuel, ça ne marche plus. Jonathan, ça ne marche plus. Alors qu'est-ce que... Il réfléchit, David. Il est obligé de s'enfuir. Et il va faire quelque chose, mais de tout à fait hallucinant, inouï, inimaginable. Vous savez où il va se réfugier ? Chez le roi Achish. Qui est ce roi Achish ? C'est un Philistin. De Gath, là où venait Goliath. Mais c'est hallucinant. Et depuis des générations, les Philistins sont ennemis d'Israël. Ils se battent ensemble. Lui-même, David, a combattu contre les Philistins. Et partout où il allait contre les Philistins, il était vainqueur. Donc, il va se réfugier chez ses ennemis. Ça va lui jouer un tour. Ça va lui jouer un tour. Et donc là, il a pour appui, en fin de compte, les stratagèmes humains. Ce sont des stratagèmes humains, des manigances humaines. Il n'y voit plus rien dans sa vie, il faut quand même essayer de se mettre à sa place. C'est hallucinant ce qu'il fait, c'est hallucinant. Il va se réfugier chez ceux qu'il combat. Et parfois, pour essayer de nous en sortir dans la vie, nous utilisons les armes de l'ennemi. Et les armes qui sont humaines. Et nous-mêmes, on commence à rentrer dans des manigances, dans des stratagèmes, parfois même le mensonge, pour essayer de s'en sortir, où on commet des choses qu'on n'aurait jamais faites dans d'autres situations, et là, on perd complètement pied. Mais on veut se souvenir que nos armes, elles sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Et on ne peut pas s'appuyer sur ces armes charnelles-là. Et nous-mêmes, peut-être, on peut connaître la colère à ce moment-là. User de colère pour essayer de se défendre. User de certaines armes qu'on n'aurait pas utilisées autrement. Ce sont des appuis humains, des stratagèmes humains. Mais ça va jouer un tour terrible à David, cette histoire-là. Il va rester 1 an et 4 mois chez Achish. Ça va durer quand même un certain temps. Hein. La Bible nous dit 1 an et 4 mois. Qu'il va rester chez Achish. Cet appui-là va se saborder de lui-même. Il va se saborder de lui-même. On comprend après tout ça que David a pu écrire dans ce psaume 18 qu'on retrouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Je vous invite à le lire ensemble. On comprend pourquoi il écrit. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. David avait besoin de passer pour là, parce que ce qui l'attend, c'est la royauté. Ce qui l'attend, c'est la royauté. Et nous avons besoin de passer, nous aussi, par là, parce que ce qui nous attend, c'est l'espérance. Et si nous voulons aller jusqu'au port, il faut que tous nos appuis humains, nous apprenions à nous en débarrasser pour nous appuyer seulement sur l'Éternel, notre fidèle appui, notre sûr rocher, le rocher des siècles. D'ailleurs, David commence le psaume 18 ainsi que le chapitre 22 de deuxième livre de Samuel, en disant « L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. » Nous voulons nous appuyer sur l'Éternel à ce moment-là. David, bien sûr, pendant tout ce temps-là, depuis sa jeunesse, enfin depuis son enfance, David est un homme de foi. Il a grandi avec la foi. Ses parents ont réussi à lui communiquer la foi. Mais ce n'est pas parce que nous avons la foi que, j'allais dire, que tout va bien dans notre vie. Et David, même s'il était déjà dans la foi, avait besoin de ne s'appuyer que sur l'Éternel, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oui, le Seigneur est un pédagogue, il est un éducateur, il nous éduque dans la foi. Et il permet certaines situations par lesquelles nous appuyons parfois et sur certaines choses afin qu'on en soit débarrassé parce que ça nous joue des tours. Afin que nous puissions lui rendre gloire et apprendre à nous appuyer que sur le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que les chemins deviennent pour nous évidents, qu'ils s'ouvrent, les chemins tout tracés du Seigneur s'ouvrent. Parce que nous nous fixons uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ et que nous avons vu ses traces et que nous les suivons. Que son nom soit glorifié. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas par quelle période vous passez. Est-ce que vous êtes dans un temps d'incertitude, un temps où rien ne va plus dans votre vie? On connaît ce verset par cœur, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et peut-être que certains peuvent même douter de ce verset, mais jusqu'ici, oui, il m'a secouru, mais là, en ce moment, il ne me secourt plus. Qu'est-ce qui arrive? Il y a tout qui chavire dans ma vie. Mais nous savons que les promesses du Seigneur, elles sont oui et amen. Et qu'il est toujours là. Et que nous pouvons nous appuyer sur lui, qui a même vaincu la mort et qui est ressuscité. Et qui intercède pour nous encore aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Que nos yeux, les yeux de nos cœurs s'ouvrent sur le Seigneur qui est toujours là. Et dans tous ces moments-là, l'Éternel a accompagné David. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous aussi nous appuyer sur toi. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. En ayant les yeux fixés sur Jésus, nous voulons suivre ses traces, suivre ses traces. À lui seul soit toute la gloire. On va prier ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es patient avec nous. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Même lorsque nos repères, nos appuis humains nous sont enlevés, se dérobent à nos yeux, et que nous avons tendance à vaciller, à plus savoir où nous en sommes, toi, tu demeures le rocher des siècles, notre abri et notre refuge, notre appui qui ne fait jamais défaut. Pardonne-nous les fois, Seigneur, où nous avons placé notre confiance dans des appuis humains au lieu de placer notre confiance en toi. Pardonne-nous les fois où nous avons même usé de stratagèmes humains où nous avons utilisé des armes charnelles pour essayer de nous en sortir, alors que toi, tu es la solution, Jésus. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ta patience à notre égard, parce que c'est toi qui nous façonnes, tu es le divin potier, tu prends patience à notre égard et tu recommences dans notre vie, et tu recommences encore. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci, merci pour ta bonté. Merci de bénir mes frères et sœurs qui peuvent passer parfois par des moments difficiles, peut-être quelques-uns actuellement, et je te prie pour eux, afin que tu les fortifies dans leur être intérieur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, nous avons chanté ce chant qui nous a rempli d'espérance tout à l'heure, et nous voulons porter nos regards vers toi, Jésus, qui est notre espérance. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen.